Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle La Voix de la Plume. Vous êtes avec Aurore et je suis ravie de vous retrouver. Avec nous aujourd'hui dans le studio, nous avons l'honneur de recevoir Audrey SG, qui est une auteure locale qui mélange deux genres dans ses écrits. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Nous avons aussi la chance de recevoir Hélène Gossard, créatrice de bijoux, dont l'atelier et la boutique sont en centre-ville de Compiègne. Merci Hélène d'être avec nous.
Ben avec plaisir Audrey.
Non, moi c'est Aurore.
Aurore, pardon. Ça commence. Désolée.
Ah non, mais bon, il y a Audrey à côté de toi en même temps, il n'y a pas de problème.
Je l'entends, donc c'est resté dans...
Eh bien, on va commencer avec Audrey, justement, voilà, puisque Hélène, elle a envie de parler à Audrey. C'est parti. Audrey, t'es avec nous aujourd'hui. Tu écris des romans qui mêlent donc deux genres, j'ai pas dit lesquels, mais on peut le dire maintenant. La fantaisie. C'est souvent que je reçois des auteurs de fantasy, faut croire que j'aime ça. Et aussi la romance. Pourquoi avoir fait ce choix déjà de mélanger deux styles comme ça?
Alors je suis pas vraiment sûre que c'était un choix en fait. Ça s'est un petit peu imposé à moi. Pourquoi? Parce que c'est mes tout premiers écrits. Donc je pense que je me suis dirigée naturellement vers un style que j'aimais bien. Et que je connaissais, et dont je connaissais les codes, parce que chaque...
Parce que tu en lis beaucoup ?
J'en lis pas mal, oui, effectivement. J'ai regardé des séries aussi, sur ce genre de choses, des films également. Donc j'en connais un petit peu les codes, et c'est vrai que je me voyais mal débuter par quelque chose que je maîtrisais pas forcément, ou que je connaissais pas tellement en tant que lectrice. J'aurais eu peur de me perdre, et finalement, d'arrêter. Et puis c'est surtout qu'au départ, je l'ai juste écrit pour moi, pour me faire plaisir.
Ah, t'as pas écrit pour être lu au départ?
Non, au départ, j'ai pas écrit pour être lu.
D'accord.
C'est venu après.
Donc, ce que t'as écrit, c'est une saga qui s'appelle La Meute Arbor. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Combien il y a de tomes? Qu'est-ce que ça raconte? Quelle est la signification de ce titre, peut-être? Et puis, et puis comment t'en es venue à écrire, du coup, pour toi?
Et pourquoi je l'ai publié?
Voilà, c'est ça.
Alors oui, effectivement, ça s'appelle La Meute Arbor. Donc, il y a... Alors, c'est un petit peu compliqué. Je crois que j'aime pas faire dans la simplicité. Il y a en fait 3 tomes dans la saga, plus 2 tomes qui sont un petit peu hors série, qui peuvent être lus en même temps. Et j'ai essayé de les faire aussi pour qu'ils soient lus un petit peu séparément, sachant que le deuxième hors série, si on n'a pas lu le début, ça va être un peu compliqué, parce que là, forcément, les autres tomes parlent des personnages un petit peu secondaires.
Donc, c'est des spin-offs.
Oui et non, c'est pas vraiment des spin-offs, parce que chaque histoire à son ancrage dans la série vraiment principale et elle apporte quelque chose en plus. C'est juste que j'ai voulu aussi laisser un petit peu la part belle parfois aux personnages secondaires qui sont souvent oubliés et qui pourtant peuvent apporter pas mal de choses à une histoire.
C'est vrai.
Donc on peut dire qu'il y a en fait 5 tomes et sachant que le premier tome a été divisé en 3 petites nouvelles que j'ai publiées au fur et à mesure.
D'accord.
Donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué pour s'y retrouver, pour savoir exactement ce qu'il faut lire.
Il existe dans un seul recueil ?
Oui, ça existe dans un seul recueil. Et ça existe dans un recueil aussi général où j'ai mis les 3 saisons plus les 2 tomes hors série dedans et qui sont vraiment là, bien dans la chronologie de l'histoire.
D'accord. Comme voilà. Ça, avec ce coffret-là, on s'y retrouve.
On s'y retrouve. Il y a tout et dans l'ordre. Donc normalement, on ne peut pas se rater. Normalement. Et donc en fait, la Meute Arbor, ça parle d'une jeune fille de 17 ans qui vivait un petit peu de façon... pas vraiment marginal, mais avec son père où il ne s'établissait jamais dans une ville réellement et qui était assez introvertie, enfermée sur elle-même parce qu'elle était scolarisée en fait à domicile. Et ils arrivent cette fois dans cette ville, donc à Bar Harbor. En fait, tout simplement, la Meute Arbor vient du fait que le nom de la ville, c'est Bar Harbor aux États-Unis.
Très bien.
Voilà.
C'est une ville qui existe.
C'est une ville qui existe, tout à fait. En fait, c'est une île. Bar Harbor, c'est sur une île qui est je me souviens, de la région du Maine.
Ok.
Voilà, sur la côte atlantique. Et elle va donc faire une rencontre qui va absolument tout changer dans sa vie, aussi bien sur ce qu'elle pouvait être que ce qu'elle pouvait penser d'elle. Et on va la suivre au travers de cette histoire où elle va apprendre certains secrets qui vont lui révéler sa véritable nature.
D'accord.
Et elle va donc faire la rencontre d'un personnage masculin, puisque c'est une romance MF. Voilà. Oui. Donc c'est pas MM ou FF, c'est MF. Donc ça, c'est des codes aussi que j'ai appris au fur à mesure. Et je préfère pas trop en dévoiler parce qu'effectivement, sinon, ça perd un petit peu de son charme d'essayer de savoir ce qui va se passer, de deviner un petit peu quels sont les éléments qui vont arriver. C'est ce que moi, j'aime dans la lecture. Donc, c'est pour ça que j'essaye de jamais trop en révéler quand j'en parle.
Et c'est pas plus mal comme ça. T'as bien raison. Ok, donc MF, romance hétéro.
C'est ça, voilà.
Très bien. Ok, donc la Meute Arbor, grâce au lieu directement. Et
le lieu, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est une région des États-Unis que j'aimerais beaucoup visiter. Donc je me suis dit que j'allais centrer mon histoire dans cette zone-là, ce qui m'a permis de fouiller un petit peu, de découvrir les lieux touristiques.
Donc, t'avais envie de la visiter avant
ou... Avant, oui, tout à fait.
Parce que naturellement, personne ne me dit « j'ai très envie d'aller dans le Maine ».
Alors moi, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai pu en entendre parler, mais j'ai entendu parler de cette île où effectivement c'est une île très sauvage, où il y a des parcs naturels, enfin vraiment des paysages qui sont magnifiques et où il y a aussi de véritables saisons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un été superbe, comme des hivers très froids avec de la neige, des paysages d'automne dans les parcs naturels où les arbres deviennent vraiment rouges. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressée. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus et pourquoi pas d'y aller un jour.
Et puis de faire voyager ton lectorat, du coup.
Aussi.
Génial. J'avais une question et je l'ai oubliée. Mais c'est pas grave, quand elle me reviendra, tu auras droit. Donc au début, tu disais que t'écrivais juste pour toi.
Oui.
Et finalement, t'en es arrivée à publier et puis même à publier des coffrets. Et,
voilà, tout à fait.
Et quel est ton... Pourquoi ?
Alors en fait, quand j'ai commencé l'écriture de cette saga, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et ma grossesse a été difficile au départ. Donc du coup, j'ai dû arrêter de travailler, puisque j'étais hospitalisée un petit peu. Puis ensuite, j'ai dû rester à la maison en faisant le moins possible. Et je m'ennuyais. Donc c'est une époque où j'ai à nouveau beaucoup lu. Et en fait, j'essayais toujours de deviner la fin ou ce qui allait se passer dans un livre. Parfois, j'étais déçue. Parfois, j'étais surprise. Parfois, c'était exactement ce que j'attendais. Donc j'étais très contente. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'ai pas forcément envie de lire. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dis, tiens, oh. Pour rigoler comme ça, je vais m'écrire une petite histoire. Donc je me suis écrit une petite histoire qui faisait quand même une petite vingtaine de pages sur une feuille A4. Donc c'était pas non plus rien du tout. Et puis j'ai repris le cours un petit peu normal de ma vie de femme active. J'ai eu mon bébé et puis j'y pensais plus. Voilà, j'y ai plus pensé, donc elle est restée dans un coin, dans mon petit cahier. Et puis je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, peu de temps après. À nouveau, c'était un petit peu plus compliqué pour la grossesse, donc j'ai dû lever le pied aussi au niveau du travail. Et puis j'ai vu un reportage sur les auto-éditions d'Amazon.
D'accord.
Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Je dis, après, je risque pas grand-chose, ça il n'y a pas d'investissement financier, entre guillemets, ou ce genre de choses. Je dis, au pire, les gens n'aiment pas, et puis voilà, c'est tout.
Oui, le système Amazon est fait pour que, du coup, j'explique un petit peu pour les auditeurs, grosso modo, pour que tu n'aies pas d'argent à injecter et que chaque livre publié se rembourse de lui-même et te donne une petite marge, et donne une marge à Amazon, évidemment.
Voilà, c'est ça, évidemment. Exactement, tout à fait.
Parce que... On ne devient pas Jeff Bezos comme ça.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, je l'ai quand même un petit peu retravaillé, parce que c'était... J'ai ressorti du tiroir, c'était un petit peu brouillon, donc je l'ai retravaillé, je l'ai un petit peu étoffé, et je me suis dit, je la publie. Alors, j'ai eu quelques petits incidents, c'est-à-dire que j'ai publié la mauvaise version au départ, celle avec les coquilles et les fautes, que j'avais bien corrigées, mais c'est comme ça qu'on apprend également, hein, c'est... C'est quand on repose, on dit « Ah, zut !» C'était pas la bonne version, mais bon. Et puis, je me suis dit « Bon, on verra bien. » Et puis, je l'ai longuement réfléchi quand même. C'est pas facile de s'exposer à la critique, parce qu'on sait pertinemment qu'on va s'exposer à la critique.
On y reviendra, ouais, tout à fait.
Donc, c'est pas évident. Je me suis dit « Est-ce que je vais le supporter ?» Donc, après tout, je me suis dit « Allez, il faut pas que je me formalise. Les gens aiment pas. Moi, ça m'arrive aussi de pas aimer un livre. Et puis voilà, hein, c'est pas la fin du monde. » Donc, du coup, je l'ai lancé. Et puis, certaines personnes ont aimé, d'autres un peu moins. D'autres m'ont fait remarquer que je n'avais pas mis la bonne version. Donc, je me suis corrigée. Voilà, ça a été fait. Et puis, je me suis dit, allez, après tout, moi, j'ai envie de connaître la fin. Je veux savoir ce qui va se passer dans mon histoire, donc je vais l'écrire. Et puis, bah, je vais la publier quand même parce que certains ont aimé, certains attendent d'avoir la fin. Donc, j'estime qu'il faut quand même que je leur donne cette fin. Et donc, c'est comme ça que, qu'est venue la saga, plus les livres
Audrey
à côté.
SG, auteur.
Voilà.
Mais du coup, ça t'a lancé de te faire publier, éditer par
Oui, Amazon ? Oui, oui, voilà, effectivement. Je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimais, que j'appréciais, de pouvoir écrire, de pouvoir le partager et d'avoir des retours de personnes qui ont aimé, qui ont envie d'avoir la suite et qui vous disent ben, parce que je suis content, j'avais un problème, j'ai lu pendant une heure et demie, ben, j'y ai plus pensé. Bah, ça fait plaisir.
Ah oui, ah bah, carrément.
Ça t'a donné une sorte de légitimité, du coup
Oui, voilà, effectivement, je me suis dit que bah, finalement, c'était, j'avais eu raison de le faire, que j'avais bien fait de le faire et que j'avais envie de continuer à le faire à ma petite échelle, à mon petit niveau, et voilà.
Mais la meilleure reconnaissance, c'est celle des lecteurs. Hein,
oui.
De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein.
Tout à fait.
Et ton parcours, Audrey, c'est quoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai au micro de La Voix de la Plume qui ont une activité professionnelle à côté, ce qui était ton cas, en tout cas, quand tu as commencé à écrire. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais tu vas nous le dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon ?
Alors, oui, donc je travaille toujours. Hein, je ne suis pas auteur à plein temps, je suis auteur amateur. Et en fait, je suis consultante RH. Donc, quand j'ai commencé, j'étais responsable RH dans une société. J'étais salariée. Et puis, par une conviction qui m'est propre, j'ai décidé d'être à mon compte. Ça me permet d'allier bah, mes trois vies, enfin mes quatre vies, si je puis dire. Hein. Ma vie de maman, ma vie de femme active, ma vie de femme tout court et ma vie de femme auteur. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, je me suis lancée à mon compte en 2019.
D'accord.
Donc, en tant que consultante RH, où j'interviens dans les entreprises sur des problématiques, toutes problématiques liées au RH. Et en fait, pendant la pandémie, j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé, puisqu'effectivement, le distanciel a fait ses preuves. Donc, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai dû laisser l'écriture un petit peu de côté, jusqu'à présent, où ça commence à être un petit peu plus calme et où je vais pouvoir me réaménager des temps pour moi pour écrire. Parce que je me suis aperçue que ça me faisait du bien, ça contrebalance bien mon équilibre personnel et j'ai envie de continuer.
Génial. Et puis bah, c'est bien aussi de se dire que tu t'es lancée dans une période, enfin juste avant une période qui s'annonçait compliquée, mais ça tu pouvais pas le savoir.
Non.
Et au moins du coup tu as eu une auto-entreprise qui a démarré sur les chapeaux de roue.
Oui, voilà, c'est concours de circonstances. Parfois, ça arrive. Bon, je me suis dit que si ça n'avait pas marché, j'aurais pris plus de temps pour écrire. Et puis voilà, mais effectivement, j'ai un petit peu orienté sur ce point-là. Ça m'a permis de faire une clientèle qui est assez stable aujourd'hui et qui me permet bah, me dire que je peux faire la part des choses entre l'auteur et la femme entrepreneuse.
Maintenant, tu peux trouver un équilibre, en fait.
Maintenant, je peux trouver un équilibre, tout à fait.
Bravo.
Merci.
Pour ça, c'est courageux aussi de se lancer, c'est toujours courageux de se lancer. On parlait de la critique littéraire. Ah si, j'ai retrouvé ma question. Parce que tu disais que la personnage principale voyageait, enfin, était un peu nomade avec son père.
Oui.
Est-ce que le métier que fait son père et qui les force à se bouger a une importance ou...
Alors, ça a pas vraiment le métier en lui-même n'a pas une importance, mais l'histoire qui est cachée derrière ça, oui. Et on le découvre au fur et à mesure dans le livre.
Très bien. J'aime bien. donc, tu parlais de la critique littéraire. J'ai lu un peu aussi les critiques du coup sur tes livres qu'on trouve sur le net. Et la première chose qui m'a frappée, c'est à quel point elles pouvaient être contrastées par moments. Donc ma question c'est comment tu le prends, parce que tu t'avais, puisque en plus c'était une de tes craintes avant de te lancer en auto-édition sur Amazon. Voilà. Alors à la fois je pose cette question un peu, je vais pas dire piège parce que j'en pose jamais, mais je tiens aussi à rassurer les auditeurs sur la moyenne des avis de tes romans qui est tout à ton honneur puisque tu tournes autour de 4 sur 5 sur chacun de tes livres, donc il y a pas de souci à se faire sur la qualité de ce que tu proposes, mais j'aime bien aussi mettre le doigt des fois sur des petites choses, donc voilà, dis-nous tout.
Alors, c'est vrai que les premières ont été dures parce que j'ai pas eu de chance. Sur les premières, ceux qui ont commenté, ce sont ceux qui ont lu la mauvaise version où il y avait des fautes d'orthographe et des coquilles. Donc, forcément, elles pouvaient pas être bonnes. C'est logique.
C'est logique.
Donc, moi, ça m'a appris des choses aussi, c'est-à-dire de bien vérifier ce que je fais, déjà d'une. Donc, de bien relire derrière, de bien faire attention.
On a tellement la tête dans le guidon dans notre projet que
voilà.
On se met à fond. Et puis, au moment d'uploader le truc, bah voilà, on part sur le mauvais truc. Pas sur celui sur lequel on travaille des heures et des heures.
C'est ça, tout à fait. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ça m'a servi de leçon. Après, j'ai fait bien attention. Après, bon, bah voilà, elles étaient justifiées à ce moment-là. Elles étaient justifiées. Hein. Je pouvais rien dire.
C'est essentiellement, donc, en fait, les premières critiques.
Les toutes premières, oui, tout à fait. Après, il y a eu des critiques sur des gens qui aiment ou qui n'aiment pas l'histoire. Et ça. Bah ça, on n'y peut rien, en fait.
Ça, c'est pas de ton ressort.
Voilà, finalement. Les gens aiment ou les gens aiment pas. Ils ont le droit. Ils ont le droit de le dire aussi. Après, il y a parfois la façon de le dire. Parce que c'est vrai que quand on est anonyme derrière son écran, on se rend pas forcément compte de l'impact des mots qu'on va pouvoir envoyer à quelqu'un. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris cette façon d'écrire comme un, je vais pas dire comme un loisir, c'est pas vrai, parce que c'est pas juste un loisir, je l'ai pris comme une seconde activité, comme quelque chose d'annexe, j'en ai pas fait ma vie, entre guillemets. Donc c'est vrai que bon,
ça t'a permis de prendre un peu de recul aussi.
Tout à, voilà, c'est vrai que c'est sûr, la critique fait mal parfois quand on vous entend dire que c'est nul, que ça vaut rien, qu'on a dû faire ça en 3 secondes. On se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la violence des mots qu'ils peuvent avoir? Donc je pense que l'anonymat en fait beaucoup, parce que c'est des gens souvent qui ont des pseudos, qui n'ont pas leur nom, prénom.
Exact.
Donc c'est vrai que... Et qu'on a plus tendance à faire de la critique que de dire qu'on a bien aimé, ça c'est tout à fait
oui,
normal.
Oui, c'est toujours plus
c'est
facile.
Français.
Hein, ouais.
Oui, c'est très facile.
Donc voilà, c'est vrai que quand on est content, on a aimé, on a dit « Oh, c'est bien, j'ai bien aimé, ouais. T'as écrit ?» Non, bon non, bon non, non. Donc bon, voilà, c'est... Donc je le savais. C'est pour ça aussi que j'ai réfléchi avant de le faire. Je me suis dit « Est-ce que je suis capable de l'encaisser ?» Et c'est, je vais faire un petit peu le parallèle avec mon métier, parce qu'effectivement, je travaillais dans les RH. Donc, quand j'étais salariée, souvent, le RH, c'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Mmh. Et on n'est pas forcément à l'origine, mais il annonce les mauvaises nouvelles et il supporte un petit peu ce qui se passe devant. Et donc, c'est comme dans mon métier où, à un moment, je me suis dit, est-ce que je suis encore capable de faire la part des choses quand les gens, on leur annonce qu'ils sont licenciés ou qu'ils ne vont pas avoir d'heures supplémentaires ou qu'il ne va pas y avoir d'augmentation de salaire. On est le premier pare-feu. Hein. C'est nous qui prenons tout, même si la décision...
C'est pas vous qui l'avez choisi.
Voilà, nécessairement, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et à un moment, on se dit, est-ce que je suis encore capable de me dissocier de ça et de faire la part des choses? Donc, dans mon métier, j'en étais plus forcément capable parce que c'était lourd à porter au quotidien et que ce n'était pas les mêmes enjeux non plus. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte aussi, pour pouvoir choisir.
Faire de l'accompagnement plutôt que de l'annonce de mauvaises nouvelles.
C'est ça, tout à fait. Même si ça m'arrive encore parfois de temps en temps. Mais c'est différent et on essaye en tout cas de trouver un compromis au mieux. Donc, c'est plus simple que quand on est salarié. Et aujourd'hui, pour l'instant, j'en suis encore capable en tant qu'auteur d'entendre que les gens n'ont pas aimé. Après, c'est vrai que je ne vais pas me formaliser, je ne vais pas m'arrêter sur une mauvaise critique parce que sinon je ne vais plus endormir, sinon je ne vais pas être agréable avec mes enfants ni avec mon conjoint. Donc, ce n'est pas le but non plus.
Oui, puis après, y a, comme tu disais, les premières critiques un peu négatives sont arrivées sur le premier tome. Alors, de par la mauvaise publication et puis après, de par les goûts des lecteurs. Ce qui se passe aussi, c'est que tu nous as dit que c'était ton premier écrit. Donc, s'arrêter sur le premier tome, c'est peut-être pas forcément la bonne idée non plus.
Voilà,
si
c'est ça.
Finalement, l'histoire peut plaire.
Elle s'étoffe au fur et à mesure parce que j'ai aussi appris en prenant des bêta-lectrices que je n'avais pas au tout départ. Mm-hmm. Donc, qui relisent l'histoire, qui nous font des retours sur ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont moins aimé, ce qu'elles attendaient, s'il y a un manque de développement. Donc, elles me permettent de construire l'histoire un peu mieux, un peu plus dans les attentes de ce que peut avoir un lecteur, parce que c'est vrai que nous, l'histoire, elle est dans notre tête. Donc on a vraiment tous les tenants, tous les aboutissants, et parfois on se dit pourquoi il comprend pas? Oui, mais il est pas dans ma tête, donc forcément il peut pas comprendre parce qu'il sait pas ce qui va se passer dans 50 pages. Moi je le sais.
C'est ça.
Donc c'est vrai que, mais c'est plein de petites choses que j'ai appris au fur et à mesure, et aussi parfois avec la critique qui a permis, parce qu'il y a eu des critiques qui étaient constructives. Il n'y a pas que des critiques méchantes, il y a aussi des critiques qui sont
constructives. Très bonnes critiques aussi.
Il y a aussi des bonnes critiques. Là, je dis pas, ça fait très plaisir. Là. Donc là, on a tendance à les relire 2 fois, 3 fois, on se dit ah, chouette.
Il faut que ça contrebalance. J'ai entendu que tu as dit bêta lectrice. Est-ce que ça veut dire que ton lectorat est plutôt féminin?
Oui, mon lectorat est plutôt féminin, clairement. Quoi qu'il y a quand même des hommes, mais beaucoup moins.
Est-ce que tu as des projets pour cette année? Du coup, tu disais que tu allais peut-être te réaménager un peu de temps là pour écrire. Est-ce que tu vas un nouveau roman ou un nouveau projet?
J'ai un nouveau projet de livre. Enfin, un nouveau, plus tellement, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, mais j'arrive pas à le conclure, j'arrive pas à prendre le temps d'écrire. Le titre est trouvé, la couverture a commencé à être faite parce que j'en avais envie.
Et que l'histoire est dans ta tête et qu'il n'est pas en train de se dissiper, ça va.
Voilà, bah, en fait, j'ai quand même une certaine politique d'écriture, c'est-à-dire que généralement, dans un petit carnet, j'ai mes histoires que j'aurais envie de développer plus tard, et où il y a déjà en fait vraiment une trame qui va presque du début à la fin. En tout cas, les personnages sont là, les noms sont là, le lieu est là, l'idée générale est là, ce qui me permet de pouvoir arrêter si j'en ai envie, si j'ai une pause, parce que je veux pas me forcer à écrire, parce que si j'y prends pas de plaisir, c'est pas sympathique. Et donc du coup, le projet est là, il est entamé, ça fait 2 ans qu'il est entamé, que les premières pages sont écrites. En tout cas, dans leur première version, mais j'ai pas eu le temps vraiment de me poser et de pouvoir m'y consacrer pleinement jusqu'à présent.
Donc, un objectif en tête ou...
J'ai arrêté de me donner des objectifs en tête parce que je les respecte pas forcément. Donc, du coup, c'est pas génial. Mais j'espère pouvoir le faire au plus tôt parce que c'est une histoire aussi qui me tient à cœur parce que dans chacun de mes histoires, il y a une petite partie de moi. Petite partie de traumatisme que j'ai pu vivre, d'histoire que j'ai dû surmonter. Et c'est un peu une façon d'exorciser aussi.
Je comprends. Et on sort de l'univers de la Meute Arbor, du coup.
Oui, on sort de l'univers de la Meute Arbor. Quand je l'ai fini, j'ai laissé une porte ouverte pour peut-être continuer un petit peu plus tard. Parce que ça faisait presque 2 ans et demi que j'étais dedans. Les personnages, je les ai accompagnés, je les ai fait grandir aussi, je les ai fait évoluer. Et j'avais envie de passer un peu à autre chose. Donc c'est j'ai normal. Clôturé la saga parce que, pour le respect de ceux qui m'ont lu, j'avais envie qu'ils aient une fin, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de ne pas avoir une fin. Mais j'ai laissé une petite porte ouverte pour peut-être plus tard reprendre.
Et là, du coup, un nouveau départ.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu fais des salons où il y a des endroits où on peut te retrouver ?
Alors non, physiquement, j'en fais pas parce que c'est vrai que bon, il y a eu la pandémie, donc c'était compliqué. Après, j'ai effectivement une activité professionnelle et assez dense, c'est assez intense jusque-là puisque je travaillais presque du lundi au dimanche matin. Donc j'essayais de ménager un peu de temps, de souffler et de consacrer aussi à ma vie perso et ma vie de famille. Et puis, c'est vrai que je suis plus sur les sur la plateforme Amazon, même pas forcément sur les réseaux, parce que j'ai pas forcément le temps de le faire correctement. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de le gérer.
Ok, donc on te retrouve essentiellement sur la Amazon. Page de la Meute Arbor sur Amazon.
Tout à fait.
Très bien. Eh ben, moi, c'est très bien. Hélène, tu as des autres questions pour Audrey?
Oui, Aurore. J'ai une petite question. Est-ce que tu sais dans quel pays va se passer
le prochain? Alors, le prochain va se passer dans... Toujours, alors, un petit peu... Tout début, un petit peu en Italie. Mais vraiment un tout petit peu. Quelques voyages sympathiques sur... Je pense que j'aime bien voyager. Il faut que je retourne en voyage, moi, je crois.
Tu te ménages du temps pour les vacances.
Voilà, c'est ça. Un petit peu sur des endroits, des spots de Croatie, de Nouvelle-Zélande aussi. Mais l'histoire principale va se passer, en fait, sur l'île d'Hawaï.
D'accord.
Les îles, t'aimes bien les îles.
J'aime bien les îles, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les îles. Et c'est vrai que... L'île d'Hawaï est très jolie et j'aimerais beaucoup y aller aussi. Donc du coup, ça me permet, comme j'aime bien me renseigner énormément sur les lieux où j'écris, regarder tout ce qui peut se faire, les Google Earth, View, tout. Du coup, ça me permet un petit peu de voyager aussi un peu par procuration.
Ça t'évade un peu aussi.
Voilà, tout à fait.
Tu fais de la grosse description d'endroits.
Alors, je ne fais pas forcément de la grosse, grosse description, mais j'aime bien, si jamais je donne un détail ou si jamais je parle de quelque chose, j'aime bien que ça soit, que ça soit vrai, que ça soit véridique, entre guillemets. Donc, du coup, je préfère prendre plus de renseignements, même si je ne vais pas tout développer, mais au moins, si je veux dire quelque chose, je suis à peu près sûre que c'est bon.
Ok.
Mais comme ça, ça fait un décor réel, on va dire.
C'est ça, voilà, tout à fait.
Eh bien, très bien, merci. C'était une bonne question. Tiens. Voilà. Merci de faire mon travail.
Et de rien, avec plaisir.
On va passer une petite pause musicale avant que tu nous en dises aussi un peu plus sur toi, Hélène. Je vous propose Supermassive Black Hole de Muse, extrait de la bande originale de Twilight. Vous êtes de retour dans La Voix de la Plume. Nous sommes avec Audrey SG, auteur de La Meute Arbor, une saga fantasy romance, et avec Hélène Gossard, créatrice de bijoux sur Compiègne. Hélène, tu sais que je suis une grande fan de ce que tu fais.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs d'ailleurs ce que tu fais, ce que tu proposes dans ta boutique rue de la Corne du Cerf, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Donc dans la rue piétonne qui descend vers le...
Vers le cube.
Vers le cube, voilà.
Voilà. Eh bien, donc je suis, donc, comme tu viens de le dire, créatrice de bijoux. Et je propose de...
Quel genre de bijoux ?
Un peu de tout, je crois. Quel genre de bijoux ? J'aime bien quand même le style rétro, art nouveau... des choses un peu anciennes, ça me parle. J'ai eu des périodes, donc là je suis plus dans la période vintage un peu, mais années 20, des choses comme ça. Et mais avant, j'ai eu une grosse période. J'ai eu des périodes égyptiennes, j'ai des périodes antiques, un peu de tout. Enfin, c'est selon vraiment les états d'esprit du moment, quand je crée.
Le tien, pas celui de la mode ambiante, pas forcément.
Alors, avant, c'était selon mon état d'esprit, de ce qui m'entourait quand même un peu. Hein. Je ne suivais pas trop ce qui se faisait. Et depuis quelques années... Je regarde un peu plus les tendances, voilà, et ce qui me permet de quand même d'un peu mieux fonctionner en boutique, voilà. Oui. C'est moins ciblé, enfin c'est ciblé, mais
ça suit une grande tendance, donc ça permet aussi de parler au grand public.
C'est ça, d'élargir un peu tout ça. C'est voilà. Avant, j'étais vraiment dans une optique. Je fais les bijoux, mais c'était très égoïste en fait. C'était vraiment pour moi. Et maintenant, j'élargis et c'est toujours pour moi. Hein. Enfin, j'en retire un énorme plaisir. Mais le panel est plus large.
Les bijoux que tu proposes sont souvent liés avec des gemmes.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que c'est fantasy ? Non, pas vraiment. Hein.
Alors, moi, je me positionne sur du... Quand je décris ce que je fais, plus sur de la fantasy haut de gamme. Voilà. Parce que j'utilise des pierres semi-précieuses. Et tous les bijoux que je crée, ils sont après dorés à l'or fin 24 carats ou à l'argent fin. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était ça.
Si c'était ma question. Oui, donc on n'a que du bijou de grande qualité.
J'essaye.
C'est mon avis en tout cas. Voilà. Voilà. C'est mon avis d'acheteuse compulsive quand je passe dans ta boutique. Donc en argent ou... plaqué, on peut dire.
Alors,
plaqué.
C'est presque du plaquage, mais c'est à un micron, ce n'est pas du plaquage. Mais la qualité, en fait, c'est la même. Voilà.
Ah oui, c'est juste la différence technique, en fait.
C'est ça. Voilà.
Qui permet aussi de faire une différence de prix, finalement, pour le.
C'est pour
l'acheteur.
C'est ça. Ouais.
Et voilà. Mais qui n'a. Change pas la qualité du produit.
Non, non. Après, en plus, j'ai plusieurs fournisseurs. Du coup, ce qui fait que ce sont pas les mêmes rendus surtout sur le doré. Voilà, parce que j'ai un fournisseur qui est à Verberie, quand même, donc j'essaie de faire du local.
Super local,
le
j'adore.
Le plus possible. Et j'ai trouvé un nouveau fournisseur là, qui est à côté de Senlis pour de la fonte. Donc vraiment, je suis ravie de tout localiser le plus possible, quoi.
Dans l'Oise.
C'est ça.
Quel est ton parcours, Hélène ? Parce que du coup, aujourd'hui, tu es ta propre chef dans ton atelier. Tu as aussi ta boutique. Donc, tu crées les bijoux. Est-ce que tu l'as d'abord fait par passion ou est-ce que ça a toujours été une vocation de créer des bijoux ?
Pas du tout. pas du tout. En fait... c'est parce que j'étais en fait dans un système général hein, pendant les études, comme tout le monde, et en fait ça me plaisait pas du tout. J'étais pas à ma place. Après la seconde, du coup, je me suis dit, je veux pas continuer dans cette filière-là, aller avoir le bac. Et du coup, je voulais faire un métier d'art. Et j'ai appelé un ami de mon frère qui était joaillier pour qu'il m'explique un peu ce qu'il voulait, comment se passait le métier. Et puis ça m'a parlé, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller visiter un très grand atelier de joaillerie à Paris qui travaillait pour de grandes marques. Et là, quand je suis rentrée dans l'atelier, j'ai été touchée par la grâce.
Tu t'es vue, quoi.
Non, il s'est passé quelque chose. Voilà. Il y a eu, c'est des odeurs. Des sensations, enfin, c'est surtout l'odeur du bois ciré, de voir tous ces établis, parce que des ateliers de joaillerie, c'est quand même, c'est beau, voilà, c'est particulier, c'est...
Ça brille ?
Non, c'est à l'ancienne, c'est, enfin, il y a du bois partout, des petits tiroirs, des rangements, des outils, et puis il y avait tous ces gens qui travaillaient avec des blouses, tout, enfin c'était, il y avait tout un cérémonial en fait qui m'a plu, et du coup le maître d'atelier m'a proposé de faire un stage pour que je voie si ça me plaisait.
D'accord.
Et puis à la suite du stage...
Comme prévu, ça t'a plu?
Bah, c'était super. Et du coup, ils m'ont préparé au concours d'entrée pour les écoles de joaillerie. Parce qu'on rentre sur concours
dans les écoles
de joaillerie. Voilà.
Que t'as pu suivre, du coup.
Et j'ai passé des concours. Et il y a plusieurs écoles. À Paris, j'ai passé deux concours. Et puis, je les ai eus. Donc, j'ai choisi l'école où je voulais aller.
Super.
Et donc, je parle de ça parce que je trouve ça important que, pour ceux qui ne s'en sentent pas bien dans le système général, s'ils peuvent avoir des gens à leur écoute dans leur famille et qui leur disent si tu te sens pas bien à l'école, sors, quoi.
Oui, il y a d'autres filières.
Qui sont très, très bien, en fait. Ce ne sont pas que des voies de garage quand on sort avant le bac.
Non, non, pas du tout.
Non, mais à notre époque, c'était un peu ça, quoi.
Oui, je pense que les mentalités évoluent un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile.
Ben oui, mais c'est pour ça que moi, tous les stagiaires qui viennent chez moi, parce que j'en prends pas mal en troisième... Je leur dis qu'il faut aller faire les portes ouvertes, qu'il y a beaucoup, il y a plein de métiers d'art qui sont très beaux, et puis qu'on peut après avoir une vie normale, quoi, puis un salaire, quoi. C'est ce que la peur des parents, c'est ça.
Et après, aujourd'hui, ce que je dis souvent à mes collègues, c'est que vous voulez que vos enfants ils fassent des grandes études. Il faut savoir qu'il y a énormément de bac plus 5 qui, au bout de 3 ans, pètent des plombs et finalement, soit n'ont pas trouvé de boulot dans leur filière, soit sont payés quand même au SMIC alors qu'ils ont un bac plus 5, ou soit finalement décident de faire complètement autre chose. Et après avoir fait leurs longues études, qui ont parfois coûté très cher, se dirigent dans ces voies de garage, entre guillemets, comme tu disais, pour être beaucoup plus épanouis que ce que finalement... leurs études leur promettaient, quoi. Donc voilà, faut pas avoir peur dès le début, finalement. Non. C'est ce que tu dis, d'y aller,
si de le sentir, quoi. Enfin bon, après moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi aussi, hein. Qui m'ont dit ok, t'es pas bien, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Voilà. Mais je savais déjà, par contre, que je voulais vraiment faire un métier d'art, quoi. Je m'étais même renseignée pour faire de la couture, mais être dans les ateliers pour la haute couture.
En parlant de ça, parce que du coup, tu as commencé par la joaillerie, mais aujourd'hui, ce que tu fais, c'est pas de la joaillerie.
Non, parce qu'en fait, à la fin de mes 5 ans d'études...
c'est long aussi de faire des métiers d'art. Voilà.
Je me suis rendu compte que la joaillerie, c'était pas pour moi. Voilà. Après avoir fait plein de stages, C'est super, hein, c'est un métier magnifique, mais je n'étais pas assez...
disciplinée.
Oui, ou conscient. Enfin, c'est pas être consciencieuse, mais en fait, tout est très 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 minutieux. Et puis, on est cantonné. Enfin, au début, hein, quand on commence dans le métier, on est cantonné à un poste. Et du coup, il y avait un côté.
Sectorisé, quoi.
Ouais, il y avait un côté très frustrant. Pour moi, en fait, c'était de pas pouvoir réaliser le bijou de A à Z, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, si je fais de la fantaisie, je pense que je vais plus maîtriser. Et là, quand je, du coup, à la fin de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer un créateur avec qui j'ai travaillé 4 ans. Et lui faisait essentiellement les bijoux pour les défilés de haute couture de Christian Lacroix. Voilà.
Et là, t'as pu t'éclater.
Et là, ça a été. Il m'a tout appris, quoi. Il m'a tout appris. Voilà. C'était en plus hyper archaïque, les méthodes de travail, que je continue, du coup, de faire à l'atelier, quoi. Enfin, moi, mes bijoux, je veux qu'ils aient une âme. En fait, je veux qu'on ressente des choses, quoi. Il n'y a pas. Le lisse, ça me touche pas. Je veux créer de la matière.
Donc, il y a un côté très artisanal dans ce que tu fais, c'est ça que tu veux dire ?
Oui. Oui, je dis archaïque parce que je n'ai pas de machine, je n'ai pas tout ça. En fait, je fais tout avec des outils, mais manuels. Voilà.
Donc, oui, il y a un petit bout de toi dans chacun de tes bijoux.
J'essaye.
Tu es compiénoise de souche, Hélène, mais avant de t'installer ici... Tu as travaillé du coup chez ce fameux créateur à Paris, ouais. Et dans d'autres endroits, tu as fait d'autres choses.
Je suis restée 4 ans avec lui. Bon, on n'a pas travaillé que pour la haute couture, on a aussi travaillé pour d'autres. On faisait aussi des bijoux pour le prêt-à-porter, pareil de couturier. Et puis après, je me suis lancée. J'ai créé ma propre entreprise. Enfin, j'étais associée. Et puis, on était qu'en atelier et on était distribués. Enfin, en fait, on faisait des salons. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait des salons.
Et le monde d'avant.
C'est ça. Et on faisait des salons où, en fait, les acheteurs, donc des gens qui avaient des boutiques, venaient choisir les bijoux. Et c'est comme ça qu'on était distribués, en fait.
D'accord, des salons professionnels, du coup.
Des salons professionnels. Et c'est pour ça qu'on a eu des corners un peu partout, dans des beaux
magasins. Allez, dis-le.
Et alors, on a eu un corner pendant longtemps au printemps, à Paris, boulevard Haussmann. Et puis après, on a été distribué chez Bloomingdale's. Voilà, à New York, on était chez Harvey Nichols, ça c'était à Londres, et puis chez Harrods aussi, ça c'était le plus beau. Et puis après mais c'était bien, hein, c'était la belle époque, et puis après il y a eu la crise de 2008, et là ça s'est arrêté pour tout le monde.
Et c'est à quel moment que tu as décidé de venir t'installer à Compiègne pour créer cet atelier boutique ?
Eh bien, après justement la crise là, de 2008, nous, on était en atelier, on ne savait pas trop comment rebondir, quoi. Puis on s'est dit, tiens, il faut qu'on ait une boutique, en fait. Comme ça, on arrête de faire les salons et on va directement à la rencontre des clients. Et donc, on a ouvert une boutique à Paris parce que j'étais associée à l'époque. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu mon premier enfant. Enfin, j'étais enceinte. Et puis, à la fin de ma grossesse, je me suis dit, oh là là, mais moi, c'est pas ça que je veux, quoi. C'est pas rester à Paris, c'est pas... Et puis, je voulais être seule, en fait. Et donc, du coup, on est revenu à Compiègne.
Dans ton business, tu veux dire ?
Oui, je voulais être seule. Je voulais, j'avais envie de. Je crois qu'il fallait que je fasse. Il n'y ait plus de concessions, quoi. Voilà.
Donc, du coup, tu es revenue à. Vous êtes revenue en famille, vous installez à Compiègne.
C'est ça. Voilà.
Tu as ouvert ta boutique. Ça fait combien de temps maintenant que tu
es ? 9 ans.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
Donc, on a en centre-ville de Compiègne une boutique à 9 ans, avec une créatrice qui a une formation de joaillerie, qui a travaillé pour de la haute couture, Christian Lacroix, et voilà, et on ne savait même pas, quoi.
Oui,
et on passe devant tout le temps, parce que tu es sur aussi la rue piétonne du marché, enfin...
Ouais, mais j'ai du mal à me... C'est vrai qu'au début, on me disait, mais pourquoi t'en parles pas? Pourquoi tu mets pas ça en avant? Mais
Hélène Gossard, chers auditeurs.
J'avais envie qu'on vienne pour ce que je faisais et pas pour ce que j'avais fait.
Oui, mais quand on le sait, on comprend mieux pourquoi c'est aussi joli.
Ah oui, bah...
Est-ce que tu as de nouveaux projets pour 2022? Des choses sur le feu? Des animations en boutique peut-être?
Des animations boutique, on en avait reparlé avec une amie avec qui on avait fait des choses déjà avant la pandémie. Peut-être qu'on refera, je ne sais pas. À voir en fait.
D'accord, c'est très mystérieux.
Oui, parce que je ne sais pas où. C'est un peu. Je suis toujours à la dernière minute, moi.
Donc si on veut savoir ce qui va se passer dans ta boutique ou ce qui se passe déjà, tes nouvelles créations, il faut faire quoi? Faut te suivre sur Insta?
Ouais.
Par exemple.
Même si je ne suis pas hyper active sur les réseaux, mais s'il se passe des choses, si je crée des événements, il y aura, ouais, ça sera dessus.
Donc Hélène Gossard?
Bijoux. Voilà.
Facebook aussi ou pas?
Facebook, ouais.
Facebook aussi. Un site internet?
Ouais.
D'accord, très bien.
Pareil.
Hélène Gossard Bijoux. Et ben voilà, c'est bien ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Audrey, je t'ai pas entendu beaucoup.
Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu fais absolument tout toi-même. Le montage, la création, le dessin, absolument
tout.
Pas de dessin, non. À l'inspiration.
Ouais, c'est ça. Les dessins, ça me bloque.
D'accord.
Il y a des moments où j'ai dessiné, parce que voilà, je voulais le poser. Mais ça, c'est avec la formation de joaillerie, on fait des dessins. Et en fait, je me suis aperçue que quand je dessinais, je n'arrive pas à retranscrire. Donc je préfère que ce soit dans ma tête et puis c'est plus facile, quoi.
Tu le construis au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, est-ce que tu crées pas quand tu en as envie, mais est-ce que tu crées quand tu as l'idée ou tu t'es quand même astreinte à des moments où c'est que de la création?
Alors, avant Noël, là, il faut que... faut que je puisse créer, que ce soit vraiment...
Faut envoyer,
ouais. Et là, c'est... Noël, c'est ma plus grosse période et du coup, c'est 2 mois non-stop. Voilà, où je prépare tout en novembre. Et puis toujours dans un stress intense, ouais. Parce que je ne sais travailler que comme ça, de toute manière. Et puis après, en décembre, il faut faire tout. En fait, j'ai pas de stock. Donc je vends, je refabrique, voilà.
D'accord, mais tu te fais pas du tout aider, parce que des fois, entre la création plus la vente, enfin, ça fait beaucoup.
Alors, depuis deux ans, il y a quelqu'un qui est avec moi à l'atelier,
ouais.
Voilà. Et puis, si on verra comment ça se passe, mais normalement, en décembre prochain, je prendrai quelqu'un à la vente avec moi aussi.
Allez.
Ouais, parce que là, c'était... Ouais, là, c'est bien.
C'est intense.
Là. Ouais, là, c'est intense. Les premières années, je pouvais tout gérer toute seule. Et puis avec le Covid, vu que j'ai beaucoup plus communiqué sur les réseaux, j'ai l'impression que ça a un peu lancé la machine, quoi. Voilà. C'est pour ça que depuis 2 ans, à Noël, c'est bien.
Voilà. Ça tourne bien. Bon, c'est bon.
Ouais.
Peut-être qu'un jour, ma commande de peigne doré verra le jour.
Oui, mais là, tu sais, ça va être la fête des mères. Et du coup, je vais me remettre dans une période de créa. De toute façon, là, il faut. Et pour avoir des nouveautés. Et je vais refaire le peigne, je te promets.
Super. Merci beaucoup, Hélène, mais d'avoir partagé ton expérience et ta créativité avec nous. D'ailleurs, c'est pas fini. On va voir dans un autre exercice de créativité ce que vous pouvez nous proposer. On va passer à l'atelier d'écriture, bien sûr. Que serait la voix de la plume sans ce petit exercice d'atelier d'écriture ? Je redis à nos auditeurs, s'ils ont envie de participer pendant l'émission ou même après en podcast ou en replay vidéo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer en message privé ce que vous avez fait pendant le temps imparti. Puisqu'on est dans le genre de la romance, je vous propose un exercice d'imagination. L'idée est, donc je vous donne un petit début d'histoire, et l'idée c'est que nos invités et vos auditeurs, si vous avez envie, vous puissiez continuer ce petit bout d'histoire. Il y aura environ 6-7 minutes pour créer ce début d'histoire. Donc voilà ce que je propose. Pour Pâques, puisque c'est bientôt, Tristan offre à sa chérie Cléa un œuf, mais pas n'importe quel œuf. Il lui offre un œuf en gemme qu'elle va pouvoir porter autour du cou. Un pendentif de Pâques bien hors du commun, car lorsque Cléa le touche, trois petits points, que se passe-t-il ? Eh bien, je vais vous laisser le temps donc, de deux chansons. On va commencer par Love Story de Taylor Swift, puisqu'on fait dans la romance.
oceans in between us, an away for sure. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me.
Et nous voilà de retour dans la voie de la plume où nos invités terminent leur dernière phrase de l'atelier d'écriture sur les notes de Ava, de Famille, bande originale de Teen Wolf que nous venons d'écouter. Et voilà, j'entends les crayons qui se posent, on y est. Le but était de continuer un début d'histoire que je vous ai proposé. Je rappelle le début et puis il y en a une d'entre vous qui enchaîne avec ce qu'elle a écrit. Ça vous va ?
Très bien.
Donc pour Pâques, Tristan offre à sa chérie Cléa un œuf, mais pas n'importe quel œuf. Il lui offre un œuf en gemme qu'elle va pouvoir porter autour du cou. Un pendentif de Pâques bien hors du commun, car lorsque Cléa touche le pendentif...
Une intense lumière verte s'en échappe. Se mouvant avec grâce, tel un serpent de jade, la lumière se transforme petit à petit en un épais nuage emprisonnant Tristan dans une prison le séparant du monde et de la réalité. Sous le choc, Cléa s'avance prudemment vers celui qui a su ravir son cœur.
À quelques centimètres de cet étrange phénomène, Claire ressent une présence étrange qui lui souffle que la clé de la liberté se trouve dans son passé.
Ouh.
Bon. Moi, je ne suis pas auteur. Donc
Merci Audrey. Et c'est pas grave, parce que l'idée, c'est de pouvoir montrer aux auditeurs que tout le monde peut se mettre en activité créative. Je peux relire le début ou juste la dernière phrase, hein, du coup.
Vas-y, la dernière phrase.
Donc, un pendentif de Pâques, bien hors du commun, car lorsque Cléa touche le pendentif...
Elle est envahie d'une sensation intense, comme une forte énergie protectrice. Au début, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Cela lui fait un peu peur. Mais une part d'elle aime cette nouvelle émotion. C'est comme si tout d'un coup, elle devenait un être puissant, doté d'un pouvoir. Un nouveau pouvoir qu'elle allait devoir apprivoiser et pourquoi pas s'en servir pour le monde.
Oh, donc d'un côté, on a
l'amour le pendentif
qui emprisonne l'amoureux. Et de l'autre côté, il y a une sensation nouvelle de puissance. Bravo. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'atelier d'écriture. On rappelle qu'on peut vous retrouver, donc Audrey SG, La Meute Arbor, sur Amazon.
Tout à fait.
En Book on Demand et en Kindle.
Oui, okay. Tout à fait.
Et Hélène Gossard, créatrice de bijoux, donc boutique sur Compiègne, rue de la Corne du Cerf, et sur Insta et Facebook, Hélène Gossard Bijoux. Mmh, et site internet.
Création. J'ai un doute.
T'as un doute sur le nom. Bon, si on tape Hélène Gossard, on va trouver, hein. Compiègne. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir partagé cette heure au micro de La Voix de la Plume avec moi. Je propose aussi aux auditeurs de liker la page Facebook de Graphite, puisqu'on a un petit compteur dans le studio qui tourne à chaque fois que quelqu'un de nouveau like la page. À chaque fois, ça détourne l'attention de mes invités d'ailleurs. Mais n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si vous voulez m'envoyer vos commentaires ou des questions à nos invités, que je relayerai avec plaisir sur ma page Instagram AYGBleu. Moi aussi, j'ai des initiales. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Passez de belles fêtes de Pâques à venir. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.
Merci
avec
à toi.
Avec plaisir. Merci.
On se quitte avec la musique Vampire de Dominique Fike. Can you feel the weight of the eyes on your neck? Passing you on the way down, descending the stairs. And the whole room is watching while pretending to dance. It was close, cause I don't know if you're standing a chance on your own. But I know you didn't make any plans. And when the clock strikes for the night, you'll be doing hella right with somebody you don't even like. Talking about your life. One, two, are we dead? Is this really real? Why were you feeling lived out by it? Sorry, you roll out, you come down the stairs, and there's no sign. The party vanished into thin air, just like a ghost town. Your best friends weren't even there, and in the whole town, you realize you don't even care. When the alarm strikes, have a light, burn when you have a white, better white lies. Last night was a setup. One, two, are we dead? Is this really real?